Jean Genet, l'art de la fugue. À l'endroit du monde. Nejma Bouakra, Angélique Thibault.
Mes gants. Blanc.
À bloc. Gonflé à bloc. Gonflé et dur, bordel. Vos lits d'amour, c'est le champ de bataille. À la guerre comme à l'amour. Pour les combats, parés. De toutes vos parures, messieurs. Je veux qu'on renvoie à votre famille des bracelets-montres et des médailles tachées de sang caillé, et même de foutre. Je veux... Preston, mon revolver. Je veux vos visières de képi plus luisantes que mes bottes, plus vernies que mes ongles. Vos boutons, boucles, agrafes, crochets, comme mes éperons, chromés. La guerre, l'amour. Je veux cousues dans vos doublures des images de gonzesses à poil et des immaculées de Lourdes. Autour de vos cous, des chaînettes d'or ou de plaqué or. Sur vos cheveux, de la brillantine. Des rubans dans vos poils du cul. Pour ceux qui en ont. Mais nom de Dieu, un soldat doit être poilu. Et beau.
Eh bien, nous, anciens combattants d'Algérie, nous sommes certains et nous sommes fiers d'avoir fait partie d'une armée qui n'était pas l'armée de Courteline.
Avril 1966.
Ils ont, pour le moment, plusieurs centaines de manifestants sur la place de l'Odéon.
Manifestation devant l'Odéon, des membres de l'OAS, organisation secrète et terroriste défendant l'Algérie française.
Ils sont venus avec des drapeaux.
Un scandale attendu et orchestré depuis de longs mois par l'extrême droite.
À l'armée, mouvement d'Occident.
Et subitement, hier soir, d'une façon tout à fait concertée, car ça s'est passé exactement comme un assaut de village, n'est-ce pas ?
Des manifestants ont jeté dans la salle des bombes fumigènes et des rats. À l'issue de la représentation d'hier soir, Claude Guérini a rencontré Jean-Louis Barrault.
Il n'y a pas eu de comédien blessé, tout va bien de ce côté-là ?
Non, il n'y a personne de blessé du tout, il n'y a pas personne de blessé, mais... Ça n'a pas de sens, vouloir imposer... Ses idées par la force et par des sévices, c'est se mettre dans son tort.
Genet avait pris soin de me faire promettre que je ne gaucherais pas sa pièce. C'est-à-dire, comme c'était sur un sujet brûlant, il voulait garder à sa pièce l'ambiguïté qui est le caractère principal de tout son théâtre, le jeu de miroir.
Roger Blin,
vous lire quelques
oui,
mots
peut-être vous voudriez vous citer quelques mots de Genet qui vous ont été...
C'est-à-dire que je ne devrais pas avoir le droit, c'est une lettre personnelle qu'il m'a écrite, mais enfin, je pense qu'il ne m'en voudra pas. Il faut que la fête soit si belle que les morts aussi la devinent et qu'ils en rougissent. Si vous réalisez les paravents, vous devez aller toujours dans le sens de la fête unique et très loin en elle. Tout doit être réussi afin de crever ce qui nous sépare des morts. Tout faire pour que nous ayons les sentiments d'avoir travaillé pour eux et d'avoir réussi.
Mais quel malentendu, les paravents. La pièce la plus manifeste de son travail pour Jean Genet, car il est la plupart du temps mécontent, a été travaillée dès 1955 et durant toute la guerre d'Algérie. Mais elle sera revue et corrigée jusqu'en 1971, puis encore en 1979. Elle déborde la guerre d'Algérie. Certes, Jean Genet soutient le combat des anticolonialistes et des Algériens. Les porteurs de valises trouvent refuge pour leurs colis grâce à lui. Mais la pièce évoque moins une réalité historique qu'une fresque au rire fracassant, crevant les paraîtres, les paravents, les bulles creuses du langage, la néantisation des uns et des autres. Jean Genet s'accroche aux gestes poétiques, à un élan vital.
Et ne bouge plus, souverain. Saïd, mon bon Saïd.
Dans un train. Son regard n'était pas d'un autre. C'était le mien que je rencontrais dans une glace. Par inadvertance. Et dans la solitude. Et l'oubli de moi. Ce que j'éprouvais, je n'ai pu le traduire que sous cette forme. Je m'écoulais de mon corps et par les yeux dans celui du voyageur, en même temps que le voyageur s'écoulait dans le mien. Le monde soudain flottait, une si méthodique désintégration. Tout homme en vaut un autre.
Le talent, c'est la politesse à l'égard de la matière. Il consiste à donner un chant à ce qui était muet. En 1954, Jean Genet rencontre un autre homme, tout en politesse avec la matière, le sculpteur Giacometti, et il décide de se donner rendez-vous à son atelier. Le détachement de Jean Genet, sa manière à lui seul et à personne d'autre d'être, c'est dans la présence de Giacometti. Lui qui décline les rendez-vous et préfère s'inviter et choisir le moment, répond présent. Et puis Giacometti déroute Jean Genet.
Il a sculpté des hommes qui traversent une place sans se voir. Ils se croisent irrémédiablement seuls et pourtant ils sont ensemble. Ils vont se perdre pour toujours, mais ne se perdraient pas s'ils ne s'étaient cherchés.
Lui qui voulait ne ressembler à personne, Alberto Giacometti lui dit « Tu es vraiment... tu es très beau et puis tu as un visage comme tout le monde. Tu es quelqu'un du monde. »
Rencontrer Giacometti pour Genet, c'était s'ouvrir à quelqu'un qui allait enfin le comprendre.
Agnès Van Mangle.
Il a cette phrase dans ce très beau texte, L'atelier d'Alberto Giacometti. Il écrit « Quand on a su que Giacometti faisait mon portrait, et il explique qu'il avait le visage rond, épais, Genet poursuit, eh bien, quand on m'a dit que Giacometti allait me regarder, finalement, je me suis dit, et je cite Genet, il va vous faire une tête en lame de couteau. Et en fait, pas du tout. Le buste en terre n'est pas encore fait. Il voit des lignes qui semblent fuir en partant de la ligne médiane du visage, le nez, la bouche, le menton, vers les oreilles, et si possible jusqu'à la nuque. Il dit, voilà, à mesure que je m'éloigne, le visage vient à ma rencontre, fond sur moi et se reprécipite dans la toile d'où il partait, devient d'une présence, d'une réalité et d'un relief terrible.
J'ai envie de peindre pour tâcher de savoir ce que je vois. C'est-à-dire, je ne prends pas le monde extérieur comme prétexte pour faire une belle toile, mais la toile comme moyen pour mieux voir ce qui m'entoure.
Et donc Genet, pour la première fois, Genet qui déteste poser...
Albert Duchy.
Il a beaucoup posé auteur, pour l'administration pénitentiaire.
Directeur littéraire de l'IMEC.
Genet qui déteste poser, il accepte de le faire pour Giacometti. Giacometti a un art qui consiste à ne jamais capturer ses modèles. C'est-à-dire que les tableaux qu'il fait, il n'arrête pas de le dire, sont toujours inférieurs à la réalité, sont toujours en dessous de la beauté d'une personne, d'un visage, d'une chose. Et donc Genet, justement dans cet échec proclamé de Giacometti devant les êtres qu'il peint, ou devant le monde, ou devant les choses, Genet n'est plus capturé, il est libre, et donc ils peuvent engager entre eux une relation d'égalité. Neuf portraits de Genet, de Genet par Giacometti, et un portrait de Giacometti qui est le livre de Genet qui s'appelle L'atelier d'Alberto Giacometti et qui est un des plus beaux livres de Genet.
Parce que j'ai encore dans les fesses la paille de la chaise de cuisine sur laquelle il m'a fait asseoir pendant 40 et quelques jours pour faire mon portrait. Il ne me permettait ni de bouger, ni de fumer, un peu de tourner la tête. Mais alors, une conversation de sa part, tellement belle. Alberto m'a appris la sensibilité devant la poussière, devant des choses comme ça.
Le fil te portera mieux, plus sûrement qu'une route. Décidé à toutes les beautés, capable de toutes, plus rien ne te rattachant au sol, tu pourras danser sans tomber.
Genet, autour de 1964, après le suicide de son compagnon Abdallah,
qui a été la figure du funambule, pour qui il a écrit le funambule, Genet avait fait une sorte de vœu de silence. Il avait décidé de ne plus écrire. Et ça allait très loin, ça allait jusqu'au fait de s'interdire de porter sur lui un stylo ou un crayon, de signer un chèque, de signer un contrat, et évidemment de ne plus écrire de livres. Quelque temps après, il fait même une tentative de suicide, dont il sort in extremis. C'est après cette tentative de suicide, à partir de 1967, donc, qu'il revient à la vie et qu'il s'intéresse de plus en plus à la politique. Mais en même temps, on voit aussi qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui, même s'il l'a décidé, ne peut pas s'empêcher d'écrire.
En 1968, précisément après la guerre israélo-arabe, j'étais à Tunis. C'était l'âge d'or de Ben Salah. Je suis par hasard que des détachements de troupes algériennes et marocaines traversent le nord et le sud sur le chemin du Caire pour aller rejoindre la résistance palestinienne. C'est dans le train qui allait de Gabès à Sfax que j'en fus informé pour la première fois.
Genet n'arrêtait pas de se déplacer, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne tient pas en place, donc il est tout le temps en train de partir.
Hôtel, Grand Hôtel Espana, 2 étoiles. Hôtel Equinox, 3 étoiles.
Oui. Par exemple, ce petit texte où Genet s'interroge sur qu'est-ce qui fait l'origine de la guerre, il est écrit sur une sorte de papier déchiré dans un magazine sur un texte publicitaire qui porte pour titre « À quoi ça sert ?»
Pourquoi celui-là, Albert Deschi?
Alors, ce bloc-notes, il est assez fascinant parce que il est couvert d'annotations, la couverture est couverte d'annotations, vous le voyez, mais en même temps, si on ouvre le bloc-notes, on voit qu'il est entièrement vide. C'est-à-dire que Genet n'a pas voulu commencer un texte, il n'a pas voulu s'installer dans la posture de l'écrivain, mais comme il ne peut pas s'empêcher d'écrire, il griffonne sur la couverture, et c'est tout de suite des choses importantes. Par exemple, je lis une ligne qui est griffonnée sur cette couverture. Il n'y a pas d'autre virilité que celle-ci, la trace noire sur la nation blanche.
Donc Chicago, août 1968, lors du Congrès démocrate. Genet voit ceci. Samedi soir, vers 22h, les jeunes ont allumé une sorte de feu de joie dans Lincoln Park. Tout près, à peine visible, dans l'obscurité, une foule assez consistante s'est rassemblée sous les arbres pour écouter un orchestre de noirs, flûtes et tambours, bongo. Le mardi soir suivant, dans le Chicago Coliseum, pour fêter le non-anniversaire de Lyndon Johnson, auquel assiste aussi Genet, 3000 personnes danseront devant une scène où se tiennent 2 guitaristes et un batteur avec 10 tambours. Les musiciens, dont les cheveux tombent sur la poitrine, ressemblent à des femmes. Ils jouent fort. Au même moment, Jalal crée les Last Poets. Nous étions donc les derniers poètes.
Le philosophe Jacques Derrida dit de Jean Genet « Il saute partout où cela saute dans le monde ». Et Jean Genet observe qu'une fois sorti de prison, il ne s'est retrouvé réellement qu'avec ses 2 mouvements révolutionnaires, les Panthères et les Palestiniens. Et alors je me soumettais au monde réel, j'agissais en fonction du monde réel et plus en fonction du monde grammatical. Jean Genet entre sans permission par le Canada aux États-Unis. Il donne une série de conférences dans les universités pour collecter des fonds pour les Black Panthers et payer les cautions des militants pour leur liberté provisoire. Il rencontre Angela Davis, qui le connaît depuis la circulation de sa pièce « Les Nègres » aux États-Unis. Elle traduit ses interventions. Il faut maintenant affronter directement la vie et non plus dans de confortables aquariums où l'on cultive des poissons rouges capables seulement de faire des bulles. Angela Davis sur un campus étudiant.
1970.
Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je ne me sens pas très bien parce qu'en descendant ces escaliers, j'ai vu des gens sauter de joie, lancer des frisbees, alors que la guerre est là, en ce moment même. Je veux juste savoir qu'est-ce que les gens célèbrent là-bas. Qu'est-ce qu'il y a à célébrer? Et je ne veux pas être rabat-joie. Mais tout ce à quoi je pouvais penser pendant cette heure, c'était l'image de trois hommes noirs entrant dans une salle d'audience silencieuse, avec des chaînes autour de leur taille et des entraves à leurs pieds.
And shackles on their feet. They're being charged with murder, with the murder of a white guard in Soledad prison.
Ils sont accusés de meurtre, du meurtre d'un garde blanc à la prison de Soledad.
I hope that people on this campus realize.
Alors, j'aimerais finir. J'espère que les gens sur ce campus réalisent que le temps est venu.
If we do not realize that the time is now,
et s'ils ne le réalisent pas,
the time will never come.
Le temps ne viendra jamais. Le pouvoir au peuple.
En Californie, Angela Davis remarque la délicatesse de Jean Genet. Jean Genet savait exprimer des émotions qui n'étaient pas de la pitié. On pouvait immédiatement les reconnaître. Les Noirs ont observé les Blancs silencieusement pendant des siècles.
Angela Davis, elle évoque, oui, la délicatesse de Genet, mais il est lui-même dans une position délicate, tout de même, parce qu'il est le seul Blanc au milieu de ces activistes, de ces militants noirs. Donc, il représente, de par sa couleur de peau aussi, l'instance de domination et d'oppression.
Emmanuel Lambert,
mais je pense,
auteur,
que quand elle parle de délicatesse, j'imagine que ce qu'elle évoque, c'est la fragilité de ce qui les lie, de ce sentiment de cette fée dérober sa place. Et ça, c'est ce qu'il trouve ailleurs aussi, et c'est ce qu'il commence à travailler dans ces années-là. C'est ce qui va le mener jusqu'à sa mort, au fond. D'aller vers ceux qui n'ont pas leur place, ou dont la place a été refusée, niée. C'est assez beau que ça parte d'un sentiment délicat.
C'est aux libéraux blancs, c'est à la nation blanche américaine que je m'adresse. Nous connaissons votre plan.
Archive, Carole Roussopoulos.
Vous vous êtes aperçu que les Noirs américains sont intelligents.
1970.
Depuis que vous savez qu'ils vous dépassent dans la réflexion révolutionnaire, vous avez décidé, et je redis le mot décidé, de les anéantir. Bobby Seale, vous le réservez pour la chaise électrique du Connecticut. Jackson sera conduit à la chambre à gaz en Californie. Vous essaierez de faire disparaître Angela Davis et le peuple noir, espérez-vous, aura assez de frousse pour avoir des gestes toujours plus obliques pour vous servir et pour se taire. Votre plan est au point. Même cette télévision d'où je vous parle nous disait avec dégoût que Reagan sablait le champagne après la capture d'Angela. Donc, tout est en place. Vos flics, qui ont déjà tiré sur un juge de façon à mieux tuer trois Noirs, vos flics, votre administration, vos magistrats s'entraînent tous les jours, et vos savants aussi, pour massacrer les Noirs. D'abord les Noirs, tous, ensuite les Indiens qui ont survécu, ensuite les Chicanos, ensuite les radicaux blancs, ensuite, je l'espère, les libéraux blancs, ensuite les Blancs, ensuite l'administration blanche. Ensuite, vous-même, alors le monde sera délivré. Il y restera, après votre passage, le souvenir, la pensée et les idées d'Angela Davis et du Black Panther.
Nous sommes le 20 août 1971. C'est Jean Genet, je crois, qui incite Jacques Derrida à s'intéresser au sort de George Jackson.
Oui, George Jackson était un jeune noir qui avait été mis en prison à l'âge de 17 ans pour un petit vol, et D'année en année, sa libération est reconduite, donc du coup, il se retrouve en prison peut-être une quinzaine d'années. Et Genet, qui a préfacé les lettres de Soledad de George Jackson, a incité un certain nombre d'intellectuels proches de lui à écrire un texte pour libérer George Jackson. La seule chose qui se passe, c'est que lorsque Jacques Derrida écrit cette lettre, qui est destinée à être un élément du livre, George Jackson vient d'être tué en prison. On a simulé probablement une fausse libération de George Jackson et il est abattu dans sa cellule.
Cher Jean, si l'histoire de Jackson reste exemplaire, c'est pour n'être pas absolument singulière. Tout ce qui lui conférerait le caractère fascinant et donc abstrait de l'exception servirait l'intérêt de l'adversaire. Les Jackson ne se comptent pas. Leur prison est aussi en France. C'est étonnant de retrouver aussi Derrida là.
La relation Genet et Derrida est quand même l'une des plus passionnantes dans la vie de Genet. Après Giacometti, c'est peut-être la relation avec Derrida qui aura eu le plus d'importance dans la vie de Genet. Et leur amitié qui s'est tenue jusqu'à la fin de la vie de Genet, leur amitié ne s'est pas démentie. Il y a quelque chose peut-être qui s'est joué peut-être entre la déconstruction menée par Jacques Derrida. Et s'il y a un concept comme ça d'écriture chez Genet, c'est plutôt le concept de trahison. Et entre les deux, il y a quelque chose qui jouait, qui est profondément et qui était assez semblable.
J'ai perdu certainement une fraîcheur. Ce qui m'a donné un peu de... Si j'en ai eu, un peu de... Justement, de fraîcheur, c'est l'insécurité. Je hasarde une explication. Écrire, c'est le dernier recours qu'on a quand on a trahi.
Adrien Laroche, qu'est-ce qui lie Jean Genet et Derrida ?
L'exclusion. À mon sens, c'est ce qui relie effectivement Jean Genet et Jacques Derrida. L'exclusion, donc aussi l'hospitalité. Alors, si je repars d'un peu loin, c'est un an après, 62, les accords d'Évian, l'indépendance de l'Algérie. Et donc Derrida, à ce moment-là, est dans une position très fragile, puisque toute sa famille a été expulsée, ses archives ont été perdues, ils sont tous entassés, toute la famille, en banlieue parisienne, dans un tout petit appartement. Et cette scène d'exclusion en appelle une autre, toujours chez Derrida, dont il parle par exemple dans la carte postale, et qui est l'exclusion en 42 du lycée, le lycée Ben Harkoun, en Algérie, en tant que juif, quand il avait 11 ans. Et c'est là que Jean Genet surgit, puisqu'il y a une scène à peu près équivalente. À 11 ans, Jean Genet, dans le Morvan, enfant adopté, dans une famille d'accueil, à l'école, le maître demande aux élèves de faire une petite rédaction sur d'écrire sa maison. Jean Genet s'exécute, et à ce moment-là, tous les élèves chahutent et disent « c'est pas sa maison, c'est pas sa maison ». Donc voilà, ces deux scènes sont des scènes d'exclusion. Et c'est ce qui me fait dire que pour Jean Genet, c'est cette histoire-là, ce traumatisme-là, cette scène inaugurale-là, qui est à l'origine de sa politique d'une certaine manière. Donc ce que j'y écris en disant « le vide de l'enfance aux conséquences politiques et une politique venue remplir ce vide de l'enfance ».
Thank you.
Un jeune homme en bleu jean est près de lui qui ne la touchait pas. Une jeune fille en jupe mi-longue. Tous les deux avaient le type arabe. Un vieil arabe djellaba de laine blanche, avec une barbe et une moustache blanche, les croisa et les regarda. Sourit, s'arrêta, sourit un peu moins et fit ceci. Sa main droite monta jusqu'à la hauteur du sein gauche de la fille. Sa main gauche descendit à la hauteur du sexe du garçon, mais sans les toucher. Rougissons tous les deux. Les jeunes gens sourirent, sans cesser de sourire. Le vieil homme dit quelques mots en arabe. Personne ne toucha personne. Et pourtant, des noces avaient eu lieu. Le vieil arabe continua son chemin en souriant. C'était en 1967, après la guerre des six jours.
Mettre à l'abri toutes les images du langage et se servir d'elles, car elles sont dans le désert où il faut aller les chercher. Cette note-là, on la retrouve le lendemain de la mort de Genet, et Jacky Maglia, qui était avec lui, là, avait regardé les notes les jours précédents, et cette note ne figurait pas du tout sur le manuscrit. Donc elle a été... Le livre est à la fois... C'est un livre qui est à la fois achevé, puisqu'on voit que le livre a une... se clôt sur lui-même. Mais en même temps, je n'ai continué à le travailler, et on peut penser que c'est une œuvre que seule la mort a interrompue. Mais c'est assez étonnant de penser que cet homme qui quand même s'est tué pendant 25 ans, je veux dire que entre les paravents et un captif amoureux, à part les articles politiques, et quand il sait que ses forces sont limitées, qu'il n'a plus que pour quelque temps encore à vivre, il se met à écrire, et à ce moment-là, il écrit sans arrêt, avec un acharnement. Parce que il y a cette idée chez lui que, au fond, le livre est la seule chose dont on est redevable.
Contrairement à la disgrâce de sécher vos mains occidentales en les mettant dans l'ouverture du séchoir à air chaud, puisque votre plaisir est moins de les sécher que de mouiller la serviette propre, vous avez connu, surtout enfant, le bonheur de rester sous la pluie, sous les averses. De préférence l'été, quand l'eau qui tombe et vous trempe est tiède. En dressant mon doigt mouillé, je n'ai jamais su d'où venait le vent. Jamais non plus le sens de la pluie, à moins qu'elle ne fût très oblique, autant que les derniers rayons d'un soleil couchant. Et quand je compris que je me dirigeais à la première rafale, au-devant des balles, j'ai ri comme un gosse étonné. Comme un idiot, à l'abri d'un mur, j'éprouvais un bonheur venu en moi soudainement, avec la certitude de ma sécurité, alors que la mort était sûre 2 mètres après la muraille. J'étais à la fête. La peur n'existait pas. La mort, autant que la pluie de fer et de plomb à côté de nous, faisait exactement partie de notre vie. Sur les visages des fédaïnes, je ne vis guère que des sourires heureux, où le calme peut être blasé. Abou Ghassam, le fédaïn qui m'avait tiré brutalement par la manche et mis à l'abri dans un angle mort, paraissait irrité et soulagé.
Le premier manuscrit d'un captif amoureux, d'ailleurs qui est assez formidable parce qu'on voit comment il est constitué, c'est du coup collé, je veux dire, je n'ai écrit sur des feuilles de papier qu'il colle sur de grands papiers. Il fait du coupé-collé avant la lettre et il rédige à partir de tous ces petits fragments. Il rédige un texte qui trouve une sorte de continuité musicale, plus que rationnelle d'ailleurs. Et ce qu'il y a de beau dans un manuscrit, c'est qu'on sent aussi le tremblé de l'écriture.
On sent aussi comment quelque chose n'a pas été constitué tout de suite d'une seule traite. On sent que c'est quelque chose qui a hésité, qui a trouvé son chemin à travers les mots.
Cette tête blanche, blanche par sa peau, ses cheveux, sa barbe non rasée, blanche, rose et ronde, toujours présente au milieu d'eux. Que voulait-il faire ? Un témoin ? Mon corps ne comptait pas. Il portait seulement ma tête ronde et blanche.
Comment est-ce que vous comprenez ? Mon corps ne comptait pas. Il portait seulement ma tête ronde et blanche. Qu'est-ce qu'il vient faire, lui, Jean Genet, là, avec les fédéines ?
Ça veut dire que le corps n'avait plus...
Amine Naoui.
Cette fonction naturelle de corps à corps, parce qu'il parle de la couleur blanche et la couleur noire et la couleur... Et donc, c'est un autre rapport que les corps, à mon avis, parce que les corps, quand on marche dans la rue, on se touche, noir ou blanc, ou toutes les couleurs. Mais là, c'est précis, ça veut dire qu'il y a une question que les gens le voient de sa couleur d'abord, et pas de son corps. La couleur de sa tête, la couleur de... Surtout dans ces moments-là, je pense que les corps n'ont plus de valeur, parce que c'est les corps qui s'entretuent. C'est la guerre. Et lui, il est là, avec les fidaïnes.
Depuis mon arrivée à Agiloun, le temps subissait une curieuse transformation. Chaque moment était devenu précieux. Mais précieux au point d'être si brillant qu'on aurait dû en ramasser les morceaux. Au temps de la cueillette venait de succéder la cueillette du temps.
Ici, si vous regardez le paragraphe, il parle d'une cueillette de temps. Le temps se laisse cueillir comme un fruit. Mais il dit aussi que cela l'a rendu lui-même dans un corps agile. Il montait rapidement les collines. Il refusait que les fidèles lui tournent la main pour le faire monter, lui qui a commencé à vieillir. Donc son corps lui-même, dans son rapport justement à l'espace, aux choses, aux objets, aux collines, s'est trouvé... Grâce justement à ce temps, à cette nouvelle temporalité,
Kadim Jihad Hassan,
transformé.
Traducteur.
Il voyait aussi qu'il y avait une sorte de vélocité, une sorte d'imagerie profonde qui ne pouvait que lui être agréable, qu'au plaisir à ses yeux d'esthète, et de poète et de romancier. Car il cherchait une esthétique dans le style même de combattant des Palestiniens. Là, il y a une immense galerie de personnages dans le livre, n'est-ce pas ? Quand il vous montre les fidaïnes, par exemple, en train de jouer après des heures d'entraînement, montant les collines pour voir la Palestine occupée, pour la voir de loin, se laisser agacer par les lumières qui s'allumaient la nuit, sachant qu'ils en étaient privés. Quand il voit les fidaïnes agacés du fait que le jeu de cartes leur était interdit et qu'ils étaient obligés d'inventer mentalement des figures, des cartes, pour parier sur des images qu'il ne voyait pas. Pour lui, c'était... Il dit qu'il a transcrit leurs paroles. Vous savez, de nos jours, de plus en plus, on donne de l'importance à la littérature des témoignages qui participe à la fois de l'écriture de l'histoire et de l'écriture littéraire. Ça, comme j'ai traduit le livre, comme j'ai beaucoup travaillé sur Genet, comme en tant qu'essayiste, j'ai écrit sur lui des pages et des pages. Il se rappelle cette paix à laquelle il a goûté à son arrivée et pendant les mois qu'il a passé parmi les Palestiniens, au moment où il n'était pas encore, si je puis dire, anéanti. Le rapport au temps donc évolue selon l'évolution des habitants de cet espace, selon les ravages qui vont travailler, si vous voulez, cet espace et ce temps qu'il a tant aimé à son arrivée.
Alors, ce premier manuscrit d'un captif amoureux, donc, qui commence par « jeu de hasard » est une expression qui ne veut pas dire grand-chose. Je pense que je peux à peu près le dater de 1980. Tout aura lieu sur fond de nuit, plutôt 1977-78. Le manuscrit de « Violence et brutalité »,
Il a été publié dans Le Monde, 2 septembre 1977. Que la révolution palestinienne s'embourbe dans le temps, 1977. On parle toujours de l'immeuble de 5 étages près de l'ambassade du Koweït. C'est la première version de 4 heures à Shatila, 1982.
Depuis le 6 juin 1982, l'armée israélienne a envahi le Liban. Elle occupe Beyrouth. L'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, a été évacuée par voie de mer le 25 août. Les forces multinationales se sont retirées le 12 septembre. 3 jours plus tard, les massacres des camps de Sabra et Shatila. Jean Genet entre dans les camps le 19 septembre.
Alors, je me rappelle, lorsqu'on arrive à Beyrouth et que je me demande si réellement j'ai eu raison d'accepter qu'ils viennent avec moi.
Laïla Chaïd, ambassadrice de la Palestine, au micro d'Albert Dichy, Radio Libre 2002.
Après ce périple terrible de prendre l'avion jusqu'à Damas, de Damas prendre une voiture collective, un taxi collectif pour rentrer à Beyrouth et voir tout le long du chemin, d'ailleurs les traces de la guerre civile, les traces de l'armée israélienne, tout ce que l'armée israélienne avait fait de Beyrouth pendant les 3 mois, et qu'on arrive dans l'appartement de ma mère, et que bien sûr, exténué, il s'enferme dans sa chambre, et moi dans la mienne. Et Genet avait l'habitude de prendre 6-7 Nembutal pour dormir tous les jours. Et donc, à 6 heures du soir, il se retire, il avale ses Nembutal, et on ne le voit plus jusqu'au lendemain. Il ne dîne pas, d'ailleurs, pour que les Nembutal aient un effet encore plus fort. Et ma chambre était face à la sienne, et 2 heures après, vers 8 heures, j'entends la clé de la porte tourner et je le vois rentrer dans ma chambre. Moi, je suis sur le lit, il s'assied sur le fauteuil. Il est un peu hagard, mais il a un visage lumineux. Et il me dit, je les aime. Je lui dis, mais qui ? Il me dit, les Palestiniens.
Un enfant mort peut quelquefois bloquer les rues. Elles sont si étroites, presque minces. Et les morts si nombreux. Le premier cadavre que je vis était celui d'un homme de 50 ou 60 ans. Il aurait eu une couronne de cheveux blancs si une blessure, un coup de hache, il m'a semblé, n'avait ouvert le crâne. Une partie de la cervelle noircie était à terre, à côté de la tête. Tout le corps était couché sur une mare de sang, noir et coagulé. La ceinture n'était pas bouclée. Le pantalon tenait par un seul bouton. Les pieds et les jambes du mort étaient nus, noirs, violets et mauves. Peut-être avait-il été surpris la nuit ou à l'aurore. Il se sauvait. Il était couché dans une petite ruelle à droite immédiatement de cette entrée du camp de Shatila qui est en face de l'ambassade du Koweït. Le massacre de Shatila se fit-il dans les murmures ou dans un silence total? Si les Israéliens, soldats et officiers, prétendent n'avoir rien entendu, ne s'être doutés de rien, alors qu'ils occupaient ce bâtiment depuis le mercredi après-midi. La photographie ne saisit pas les mouches ni l'odeur blanche et épaisse de la mort. Elle ne dit pas non plus les sauts qu'il faut faire quand on va d'un cadavre à l'autre. Si l'on regarde attentivement un mort, il se passe un phénomène curieux. L'absence de vie de ce corps équivaut à une absence totale du corps, ou plutôt à son recul ininterrompu. Même si on s'en approche, croit-on, on ne le touchera jamais. Cela si on le contemple. Mais un geste fait en sa direction, qu'on se baisse près de lui, qu'on déplace un bras, un doigt, il est soudain très présent et presque amical. L'amour et la mort. Ces deux termes s'associent très vite quand l'un est écrit. Il m'a fallu aller à Shatila pour percevoir l'obscénité de l'amour et l'obscénité de la mort. Les corps, dans les deux cas, n'ont plus rien à cacher. Posture, contorsion, gestes, signes, silence même, appartiennent à un monde et à l'autre. Je note ceci maintenant, sans bien savoir pourquoi en ce point de mon récit. Les Français ont l'habitude d'employer cette expression fade, le sale boulot. Eh bien, comme l'armée israélienne a commandé le sale boulot aux Kataeb, aux Adadistes, les travaillistes ont fait accomplir le sale boulot par le Likoud, Begin, Sharon, Shamir. Je viens de citer R, journaliste palestinien, encore à Beyrouth le dimanche 19 septembre. Au milieu, auprès d'elle, de toutes les victimes torturées, mon esprit ne peut se défaire de cette vision invisible. Le tortionnaire, comment était-il ? Qui était-il ?
Je le vois et je ne le vois pas. Il me crève les yeux et il n'aura jamais d'autre forme que celle que dessinent les poses, postures, gestes grotesques des morts travaillés au soleil par des nuées de mouches.
Il est très vite parti, il a tenu à quitter Beyrouth très vite après cette visite des camps. Il était déjà lui-même très mal en point parce que durant les 4 heures de cheminement du camp, absolument dévasté parce que non seulement on avait tué tous les habitants, mais on avait voulu effacer les traces en détruisant les maisons sur les cadavres pour camoufler justement les amoncellements de cadavres. Et Jean était brûlé parce que septembre à Beyrouth est encore une période où il fait très 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 chaud et le soleil est très fort. Et donc j'étais très heureuse qu'il parte parce que je ne savais pas s'il allait survivre au choc de l'émotion, de l'événement, mais même physiquement aux conditions de cette visite de Châtillat. Et à ma grande surprise, lorsque je suis rentrée à Paris en octobre et que j'ai été directement le voir dans son appartement de la rue des Acacias dans le 17e, au lieu de voir un homme mourant, comme je m'attendais à voir, j'ai vu un homme assis d'aplomb dans son lit, le dos adossé au mur, et qui me regardait avec des yeux tout malicieux et ronds, et qui m'a tendu une liasse de papier blanc sur lequel était tapé un texte à la machine. Il me dit « Tiens, c'est pour toi !» Et là, quelque part, la force, son aplomb, au début, m'a surpris, même dérangé. Et c'est lorsque j'ai pris cette liasse de papier et j'ai commencé à lire que j'ai réalisé que quelque chose d'extraordinaire s'était passé et que je n'ai été revenue à l'écriture. C'est le texte de la Renaissance de l'écriture. C'est le texte du retour à l'écriture et c'est un des plus grands textes de Genet. Je trouve que Jacques Derrida a trouvé un terme absolument magnifique lorsqu'il a dit que, et il ne savait pas combien il disait vrai, que 4 heures à Châtillat, ce texte de Genet, est la seule sépulture des victimes du massacre.
Je décrirais, la tonalité ou le point de départ ou l'origine de cette histoire riche hein, de Jean Genet et des mouvements politiques, c'est ce mouvement de sortie, de traversée. En tout cas, il n'y a pas de libération. C'est sans fin, c'est un chemin, c'est un travail d'écriture.
C'est une
ascèse
aussi.
C'est une ascèse, oui, tout à fait. Ce moment de Jean Genet, comme il le dit lui-même, il est âgé. Et donc... Jusqu'à l'apparition posthume en 86 d'un captif amoureux qui est sous-titré Souvenir 1, Souvenir 2 et qui récapitule, qui rassemble ses 20 ans auprès des mouvements politiques. Mais elle me paraît vraiment importante parce qu'effectivement il y a une position de non-appropriation. Enfin, je veux dire, il a conscience très vite qu'il va être un témoin, qu'il va écouter. Enfin, c'est un peu un contre-récit, vous voyez, c'est-à-dire c'est pas lui qui va venir sauver quiconque. Et il le dit très clairement à propos des Palestiniens. On dit que je les ai aidés, etc. Quelle blague! C'est moi qui a été aidé par eux.
Tu peux... Non, ça c'est interdit, non? Non, on descend un petit peu. Après, on tourne à gauche. Voilà, c'était toujours, tu vois, une ville des écrivains, des peintres et des artistes. C'est un lieu qui a attiré, en fait, surtout les écrivains beatniks qui ont vécu ici à partir des années 40 jusqu'à les années 80-90. Surtout avec Paul Bowles qui est venu ici la première fois pour découvrir la musique marocaine et après elle va devenir un grand écrivain. On n'est pas loin du quartier espagnol, Calle Espagnol, qui est juste à côté. Et on est à côté aussi de Café de Paris et juste en face le consulat de France. On peut tourner à droite ici. C'est un lieu qui était fréquenté par les écrivains et les artistes à l'époque. Il y a une partie pour les hétéros, une partie pour les homosexuels, une partie pour les prostituées. Jean Jaunet aussi, il le fréquente chaque jour là, pour boire un thé. Et c'est le lieu là où Mohamed Choukri a rencontré Jean Jaunet, en fait. Donc à l'époque, elle fréquente beaucoup la librairie des colonnes. C'était le salon littéraire de Tanger, en fait, qui était fréquenté aussi par Paul Bowles, Tennessee Williams. Mais elle n'était jamais amie avec ces gens-là. Elle se méfie des intellectuels et des marginaux de Tanger. Elle vient à la librairie juste pour retirer son argent. Parce que la librairie faisait partie de la maison d'édition Gallimard. À chaque fois, elle vend ses livres et vient là-bas pour les récupérer. Et comme ça, elle prend l'argent et elle s'installe à côté de café Claridge pour boire un café ou une bière. Mohamed!
Mohamed!
Ok, on peut se garer ici.
Là, c'est la nuit. Quelques chaises.
Ouais, quelques chaises.
Quelques chiens errants.
Absolument, la lumière du port. Et nous.
Toi, quand tu avais 10-15 ans, tu venais jouer ici au foot ?
Absolument.
Tu aurais pu croiser Mohamed Choukri ici, le grand auteur de Tanger.
Ça, c'était son lieu préféré. Il vient avec son chien, il marche ici beaucoup. Ça me rappelle un petit peu Pasolini, tu vois, qu'on est le port dans la mer. Donc, c'est le même cas. C'était un homme solitaire. Il n'avait pas de famille. Donc ses amis, c'est des livres.
Et comme Jean Genet, il a appris tout seul à écrire. C'est ce qu'il raconte dans Le Pain Nu. Et quand Jean Genet arrive à Tanger, il veut absolument le rencontrer, non?
Oui, il l'a rencontré. Bah, surtout, c'est pas Jean Genet qui a cherché Choukri, mais d'ailleurs, c'est Choukri qui a fait son mieux là pour trouver Jean Genet. Et il y a un jour, tu vois, il lui dit, voilà, moi j'écris un livre sur toi qui s'appelle Jean Genet à Tanger. Jean Genet, en ce moment-là, il était vraiment très fâché contre lui. Il dit, moi, j'aime pas quelqu'un d'écrire sur moi. Voilà. C'était quelqu'un qui, je pense, hyper réaliste. C'est le réalisme total, tu vois, dans l'écriture de Choukri. Un enfant qui a jamais grandi, voilà.
Jean Genet, avant, il vivait à Tanger. Et Jean Genet vivait... partage l'appartement avec Mohamed Choukri.
Anas Hassan El-Rissi.
C'est pour cela, la police, il dit ça, que la police, la première des choses, venait dire à Jean Genet, toi tu quittes Tanger. Rapide, rapide. Tanger, il y a beaucoup de Tanger à Tanger, c'est pas qu'une Tanger. Mais il y avait des écrivains, comme Mohamed Choukri, il a écrit Le Pain Nu, il a écrit de sa vie, qu'il était agressé, qu'il était violé, qu'il était homosexuel, il a dit ça, il a écrit ça. Quelque chose qui était tabou. Pour les Marocains, pour les musulmans, à cette époque-là, pour écrire ça, c'était quelque chose pas bien. Pas bien. Alors, un vendredi, ils ont fait la prière dans une mosquée, et ils voulaient brûler même la bibliothèque ou ces livres qui sont là. L'arrache, c'était la ville de la nuit. L'arrache, c'était Beyrouth du Maroc. C'était 17 bars la nuit. Les intellectuels de l'arrache, toujours on se rassemble de la station du bus. Tu vois, si tu vas à la station du bus, tu trouves Jean Genet. Mais si tu vas à l'Exus, tu trouves Jean Genet. Si tu descends au port, tu le trouves. Tu peux trouver Jean Genet 24 sur 24. Jean Genet, il ne dort pas, je pense. Putain, il ne dort pas, oui. C'est pour cela que Jean Genet a choisi l'arrache. Il y avait un restaurant en bas, il vient prendre le tas de harira, il y avait aussi un hammam, ici il vient se baigner, il y avait aussi le port, dont il trouve Jean Genet 24 sur 24. Jean Genet, il a fait raconter tout ce qui dort dans la rue. Tu vois, il avait un langage dans ses yeux, il avait l'humanité remplie. Il avait sa marche. Mais il était beau dans ce visage, Jean Genet. J'aime Jean Genet lorsqu'il se met comme un militaire. Tu vois, une belle chemise, tu vois, coiffé comme ça. C'était un homme humain. Il a aidé beaucoup. Ça se voit de le taux de l'argent qu'il a laissé aux pauvres qui étaient à l'arrache, qui sont maintenant sont très bien installés socialement à cause de lui. Oui, pas 10 ou 20, mais qu'est-ce que sont les pauvres? ceux qui dormaient dans la terre. Si tu me demandes, est-ce que j'ai lu le livre Jean Genet, je ne connais pas. Surtout, nous, à l'Arachois, qu'on a fréquenté Jean Genet à cette époque, on ne savait pas qu'elle était écrivain. Jusqu'à le jour de ce enterrement. Parce que toujours les conseillers de François Mitterrand viennent aux stations du bus dont je te parle, des hommes avec des chemises blanches et des cravates rouges, qui descendent de leur voiture, des voitures diplomates, c'était des Renault 16, des X, avec matricule français, et ils viennent direct chez Jean Genet. Et après, ces gens-là, ils mettent ce manteau, et ils partent dans leur voiture, ils partent.
Qui est venu à l'enterrement? Est-ce que les gens pauvres de l'Arrache sont venus aussi à l'enterrement?
Toutes les pauvres de l'Arrache. C'est la famille de Jean Genet, sont les pauvres, les clandestins, les salopards, ceux qui dorment dans la rue, tu vois.
Jaune. Celui-ci. Violet. Ces fleurs-là, on les appelle Khramchicha. Rose.
On est à l'Arrache, hôtel Espagne. Et c'est un lieu historique. Depuis 1921, l'hôtel est en service.
Donc vous avez travaillé ici pendant combien de temps?
20
ans. Je travaille ici depuis 42 ans.
Est-ce que vous vous souvenez de cet homme-là?
Jean Genet, c'était un ami. Il était dans la chambre numéro 12. Il y avait un monsieur qui venait de Kenitra. Non, j'ai oublié le nom. Il a accompagné Jean Genet jusqu'ici, puis rentré ensuite. Jean Genet avait beaucoup aimé l'Arrache. Puis il s'y était installé. Jean Genet se posait dans le café Atlantico. C'est là où il buvait son thé et écrivait ses textes. Jean Genet aimait la mer, la vue sur la mer du café Atlantico, les bateaux qui sortaient et qui rentraient au port. Il aimait ça, ça l'inspirait pour écrire. Mais il ne m'a jamais dit ce qu'il écrivait.
Est-ce que vous savez de quoi parlent ces livres ?
C'est à la fin que j'ai compris qu'il écrivait ses mémoires.
Le captif amoureux.
Il a laissé beaucoup de livres derrière lui. Les gens venaient le voir quand il était dans le café. Mais le seul qui venait souvent lui rendre visite, c'était ce monsieur de Kenitra. C'était comme s'ils vivaient ensemble. Il venait souvent. Il avait même habité avec lui. Après la mort de Genet, on avait continué à le voir dans les parages, Qatrani. Il était mat de peau et portait un chapeau.
Il était bel homme, Mohamed Qatrani.
Oui, il était très beau.
On n'a jamais pensé à Jean Genet de sa vie intime. On ne parle pas de sa sexualité, on ne parle pas de tout ça. Elle était amie ou amante de Mohamed Khatrani, mais elle était une vie normale. Une vie très normale. Très, très, très normal. Parce que Mahmoud Khatrani, premièrement, au départ, c'était un guide d'une femme aveugle. C'est un orphelin. Et il dort dans la rue. C'est pour cela que Jean Genet a adopté Mahmoud Khatrani. Et Jean Genet a construit la maison à Mahmoud Khatrani. Et ils vivaient ensemble un certain moment. Après, il était obligé de le faire marier pour faire calmer la société, les gens qui vivent ensemble, quelque chose comme ça. Voilà.
Le livre, Un captif amoureux, le livre posthume, s'ouvre sur la mort de Nasser en Égypte et la façon dont le cercueil a été porté par tous ces jeunes gens égyptiens comme une danse. Enfin, c'est vraiment un mouvement de foule considérable et qui danse avec le cercueil de Nasser. Et en fait, Genet est emporté dans ce mouvement. Ça sera encore aussi toujours son cercueil à la fin, hein, mais en tout cas, pour l'instant, il est emporté dans cette danse. Et donc, toute cette danse de 20 ans, tout ce mouvement du corps, toute cette délicatesse des gestes de la danse qui finalement va infuser et va se traduire par ce texte extraordinaire qui est complètement dansant aussi, hein, Captif amoureux. Enfin, au sens où, encore une fois, la syntaxe de ce texte est complètement déhanchée, désarticulée, parfois incorrecte grammaticalement. Alors, je ne sais pas si c'est la drogue, les médicaments, la vieillesse, l'ivresse, le témoin hagard, mais en tout cas, cette écriture est complètement hallucinée, enfin, celle d'un captif amoureux. Il n'y a pas une phrase qui est normale, enfin, ou qui tient droite. Enfin, bon, c'est un drôle de texte. Et ultimement, comme Jean Genet l'écrit aussi, il parle de la danse de ses 10 doigts. Et donc, finalement, bah, ça va être ce travail d'écriture, hein, considérable sur 20 ans du captif amoureux. Et donc, la danse de ses 10 doigts. Et il parle d'une danse indépendante de lui-même.
Rose, le ciel.
Avec Agnès Van Hoong, Albert Dichy, Laila Chaïd, Kadim Jihad Hassan, Adrien Laroche, Amin Naoui, Anas, Hassan Eldrissi, Youssef. Merci à Saïd Naïd Sal et Mouna Al-Bashir. Responsable éditorial, Emmanuel Laurentin. Coordination, Christine Bernard. Chargée de programme, Anne-Vanessa Prévost. Bruitage, Aurélien Bianco. Documentation musicale, Antoine Vuillouz. Équipe technique, Emmanuel Couturier, Benjamin Thuot et Nicolas Mathias. Prise de son, Hélène Langlois. Mixage, Bruno Mourlon. Documentation, Annelise Signoret. Zachary Bayri, Thierry Ancis, Lise, Jean Genet. Une grande traversée de Nejma Bouakra, réalisée par Angélique Thibault.